VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, il est 11h en temps universel, bonjour à tous. Le dialogue ouvert hier à Lomé entre pouvoir et opposition après 6 mois de crise politique, au Togo a connu les premières avancées au terme d'une longue journée de discussions qui ont été suspendues jusqu'à vendredi. Le premier jour des débats qui s'est déroulé à huis clos en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur de la crise, ont été largement dominés par les mesures d'apaisement exigées par l'opposition. Le retour à la constitution de 1992, principale revendication de l'opposition, sera également examiné après l'étape des mesures d'apaisement franchies. Cela dit, les deux parties ont convenu que la délégation gouvernementale sera la bienvenue aux discussions. Par ailleurs, le pouvoir et l'opposition ont aussi accepté de suspendre les manifestations jusqu'à la fin du dialogue. Le dialogue doit durer une dizaine de jours, en plus du rétablissement de la constitution de 1992 qui prevoyait un maximum de 2 mandats présidentiels. L'opposition tient aussi à une transition politique et des réformes électorales. De nouvelles violences électorales en Guinée. Un gendarme a été tué hier dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre dans la banlieue de Conakry. Les protestations liées aux résultats des élections locales du 4 février sont combinées avec la poursuite d'une grève des enseignants. Raïssa Giraudin.
Le gendarme en question est mort dans des troubles à Koloma, dans la banlieue de Conakry, selon le porte-parole de la gendarmerie, le colonel Mamadou Alpha Barry. Les circonstances de sa mort restent floues. Par ailleurs, des milliers de jeunes ont manifesté hier à Conakry pour dénoncer l'indifférence du gouvernement et exiger le retour de leurs enseignants dans les salles de classe. Les enseignants sont en grève depuis le 12 février pour exiger une augmentation des salaires, de meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement menace de couper les salaires des grévistes et de prendre des sanctions disciplinaires. La semaine dernière, 2 jeunes ont été tués dans ces violences post-électorales qui ont déjà fait au moins 7 morts depuis les élections locales du 4 février, dont les résultats se font toujours attendre.
Au Cameroun, 3 partis d'opposition appellent au boycott des élections sénatoriales du 25 mars. Ils doutent de l'impartialité, selon eux, du corps électoral devant choisir les 70 sénateurs. D'autre part, de grandes manœuvres politiques sont déjà enregistrées autour de ce scrutin. C'est ce que nous dit à Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules-Ntap.
L'Alliance des forces progressistes est l'une des premières formations politiques à avoir appelé au boycott des élections sénatoriales au Cameroun. Alice Sadio, présidente de l'Alliance des forces progressistes.
Nous avons un Sénat sortant qui a été élu partiellement, l'AFP et toutes les autres vraies forces du changement ne sauraient se reconnaître ou alors encourager les gens à y participer.
Pour le parti Univers, dont la masse militante est jeune, l'institution d'un Sénat est sans fondement au Cameroun. Prosper Nkumvondo, président du parti Univers.
Dans la politique du parti Univers, le Sénat en tant qu'institution parlementaire n'existe pas. Si nous arrivons d'accéder au pouvoir, le Sénat fait partie de ces institutions-là que nous allons faire disparaître.
Plus acerbe, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'insurge contre une élection sur de futurs conflits au Cameroun. Sosthène Médard Lipote, secrétaire national à la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
Il fallait calmer les anglophones en organisant des élections claires et transparentes à la base pour qu'ils aient des nouveaux leaders. Dans le sud-ouest, comme dans le nord-ouest, des maires anglophones, notamment dans le sud-ouest, ont été attaqués et des gouvernements, dont les maisons brûlées. Donc la crise anglophone n'est pas seulement une crise politique au sens général du terme, c'est aussi une crise de leadership. Comment les conseillers municipaux, en fin de mandat, peuvent-ils élire de nouveaux sénateurs? Et ça va aggraver la crise anglophone dans le sud-ouest.
Malgré cela, certaines formations politiques de l'opposition entendent participer pour la première fois aux élections sénatoriales. À l'instar du FSNC, le parti n'a pourtant pas de conseillers municipaux parmi les électeurs. Issa Thirou Mabakari, président du FSNC.
Je n'ai pas suffisamment de grands électeurs. Vous savez, on dit que la seule bataille perdue est celle qui n'est pas livrée. Nous avons estimé indispensable d'être présent à cette compétition.
L'on évoque en coulisses une éventuelle alliance entre le parti au pouvoir et la formation politique de porte-parole du gouvernement camerounais. Par contre, au sein de l'UPC, le plus vieux parti politique du Cameroun, l'on refuse toute alliance avec le RDPC, parti au pouvoir, pour les élections sénatoriales. Jean-Jacques Biadeux, délégué aux questions électorales de l'UPC.
Nous avons un protocole d'alliance avec le RDPC, mais à certains moments, il faut réactualiser.
Donc pour ces sénatoriales, ça ne marche pas.
Nous irons à toutes les élections. D'ailleurs, le secrétaire général a dit, tant que le parti n'est pas fort, il ne voit pas pourquoi nous allons partir en victime résignée derrière un autre parti pour signer fait des alliances.
C'est la deuxième fois que les sénateurs camerounais seront élus 22 ans après la création du Sénat Yaoundé. Emmanuel Jolontap, VOA Afrique.
Plus de 5 millions de Burundais se sont inscrits sur les listes électorales pour le référendum constitutionnel controversé prévu en mai et les élections générales de 2020, a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, citée aujourd'hui par des médias locaux. La Commission n'attendait pas plus de 4,5 millions d'inscrits. Selon le gouvernement, l'affluence enregistrée s'explique par l'engouement et le sens patriotique des citoyens burundais qui sont les initiateurs de ce référendum constitutionnel. Un militant et porte-parole du mouvement citoyen tchadien IINA, qui appelle à manifester depuis fin janvier contre la malgouvernance, a été arrêté lundi à N'Djamena alors qu'il s'apprêtait à brûler un tas de pneus selon la police. Amnesty International sur place a jugé les raisons évoquées insuffisantes et demandé la libération immédiate ou l'inculpation formelle d'Alain Kemba Dida sur la base de charges reconnues par le droit international. En Afrique du Sud, l'un des frères de la famille Gupta a contesté le gel de ses biens à hauteur de 700 000 euros. Les frères Gupta sont au cœur d'un vaste scandale de corruption dans lequel est impliqué l'ancien président Jacob Zuma et Kia Badou.
Selon Louvuyo Mfaku, porte-parole du parquet sud-africain, Atal Gupta a demandé à la justice de revoir sa décision de geler des biens d'une valeur de 700 000 euros. Il dément avoir profité d'un projet d'exploitation laitière qui ne s'est jamais réalisé dans la province du Free State. Le parquet doit faire connaître sa décision demain, mercredi. La semaine dernière, la police a perquisitionné la résidence des Gupta à Johannesburg. 8 personnes ont été arrêtées. La police a aussi émis un mandat d'arrêt contre un autre frère Gupta, Ajay, dans une affaire de détournement de fonds. Le ministre de la police, Fikele Mbalula, précise que 5 personnes sont recherchées dans un vaste scandale lié à la famille d'origine indienne. Selon un rapport de la médiatrice de la République publié en 2016, les Gupta sont impliqués dans la gestion des affaires de l'État, de la nomination de ministres aux pressions pour obtenir de juteux contrats publics. La semaine dernière, le président Jacob Zuma, un ami des Gupta, a été forcé à la démission.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président palestinien Mahmoud Abbas prononce aujourd'hui une rare allocution devant le Conseil de sécurité pour appeler à une reconnaissance de la Palestine comme un État membre de l'ONU et rejeter une médiation unique des États-Unis dans le processus de paix. Selon des officiels palestiniens, Mahmoud Abbas va appeler à des négociations avec Israël dans un cadre élargi et pas sous l'égide principale des États-Unis. Au moins 45 civils, dont 12 enfants, ont été tués aujourd'hui dans de nouvelles frappes du régime syrien contre la Ghouta orientale, enclave rebelle à l'est de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces frappes, qui se poursuivent pour la troisième journée consécutive, interviennent dans le cadre d'un regain inédit des violences, alors que le régime syrien s'apprête à lancer une vaste offensive terrestre contre ce dernier fief rebelle près de la capitale. Le président américain Donald Trump a fait savoir hier qu'il soutenait un renforcement du contrôle des antécédents des acheteurs d'armes à feu face à la colère d'une partie de la population choquée par la nouvelle fusillade meurtrière survenue dans un lycée de Floride la semaine dernière et qui a fait 17 morts. Depuis la fusillade, M. Trump était resté silencieux au sujet de la réglementation des armes à feu. Dans une allocution au lendemain du drame, il avait surtout mis l'accent sur la nécessité de repérer les personnes souffrant de problèmes psychiatriques. La date des manœuvres militaires des États-Unis et de la Corée du Sud, qui provoquent chaque année la colère de Pyongyang, mais ont été reportées cette fois, sera annoncée après la fin des Jeux paralympiques en mars, a annoncé aujourd'hui le ministre sud-coréen de la Défense. Washington avait accepté à la demande de Séoul de retarder ses importants exercices militaires après les Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang afin d'éviter qu'ils ne soient plombés par les tensions sur la péninsule. Les Jeux olympiques ont permis une détente inattendue entre le Nord et le Sud, Pyongyang ayant envoyé non seulement des athlètes, mais aussi des artistes ou encore une délégation de très haut rang, comptant notamment la sœur du leader Kim Jong-un. Jean-Roger Billon, prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.